autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation. Et si nous embarquions pour un voyage un peu particulier, un voyage dans l'univers méconnu de la mesure, ou des mesures plutôt. Selon le système international d'unités, il existe 7 unités principales, dont 4 vont prochainement être redéfinies à l'occasion de la conférence générale des poids et mesures prévue la semaine prochaine. Alors comment appréhender cette révolution annoncée dans le monde de la métrologie, la science de la mesure? Un kilogramme sera-t-il toujours un kilogramme? Nous allons nous préparer à ce tournant historique pour les sciences avec nos deux invités, Thomas Grenon, directeur général du Laboratoire National de Métrologie et d'Essai, et Mathieu Thomas, chercheur au sein de ce laboratoire, responsable de la balance de Keeble, l'instrument qui va permettre de calculer ce nouveau kilogramme. Alors sur nos balances, sur nos horloges, sur nos téléphones, la mesure rythme nos vies. Pour continuer d'avancer, la science cherche un langage commun dans la mesure du possible, autour de la question « Pourquoi redéfinir nos unités de mesure ?» Bienvenue. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour nous aider à comprendre cette redéfinition de plusieurs unités de mesure. Une réforme qui peut passer inaperçue pour le grand public, mais au fait, en quoi c'est une révolution, Thomas Grenon?
Alors, c'est une révolution parce qu'on va changer la définition de 4 unités du système international qui en comprend 7. Et je dirais que habituellement, on en change une tous les 10 ans ou tous les 20 ans. En changer 4 d'une seule fois, en une seule fois, c'est unique depuis que la mesure est régie par une convention internationale, qui est la convention du mètre, donc depuis 1875. Donc c'est en ça que c'est une vraie révolution. Et puis c'est une révolution parce que la dernière unité qui reste basée sur un artefact, le kilogramme dont on va parler, va être dématérialisée. Et l'ensemble du système international reposera maintenant sur des constantes fondamentales de la nature.
Le kilogramme va donc être redéfini, ainsi que la molle, le kelvin et l'ampère. C'est bien ça, hein ?
Absolument.
4 unités. Alors je vous propose de nous arrêter un instant dans une exposition que je pense que vous avez pu visiter tous les deux. D'ailleurs Mathieu Thomas, on peut vous voir en vidéo expliquer ce que va devenir le kilogramme. J'ai aussi pu la visiter. Cette expo s'intitule « Sur mesure, les 7 unités du monde ». Elle a ouvert ses portes mi-octobre au Musée des Arts et Métiers à Paris. Et sa visite va émailler notre voyage au cœur du monde de la mesure, en compagnie du commissaire de l'exposition, également historien des techniques, Bruno Jacomi.
On a commencé par le quotidien, parce qu'en fait la mesure elle est partout, elle nous concerne tout partout. La précision et la marge d'incertitude de ces mesures que l'on a, elle peut être très très large. On sait que si on passe à 85 km à l'heure sur la route, on risque de ne pas être flashé par le radar. Bon, on a des marges comme ça. Mais au bout du bout, il y a des unités avec une définition unique et extrêmement précise. Mais pour y arriver, il fallait donc avancer pas à pas, expliquer qu'est-ce que c'est qu'une mesure, comment on est parti de la mesure de l'homme, comment on procède pour mesurer des éléments qui ne sont pas mesurables directement en général. Et puis, c'est la petite séquence où il y a un diapason aussi, la nécessité de s'accorder sur des données communes si on veut progresser.
Alors justement, là, dans l'exposition, on voit en fait un panneau avec une anecdote surprenante écrite dessus qui souligne l'importance de partager les mêmes unités de mesure. Vous nous la racontez ?
Oui, on a émaillé l'exposition de petites histoires comme ça à droite et à gauche. Celle-ci, c'est l'aventure de la sonde Mars Climate Orbiter qui est partie il y a bien longtemps et qui est arrivée derrière Mars en fait au mois de novembre 1999. Et bon, elle est allée faire son petit tour, elle tournait derrière Mars, les chercheurs étaient à la NASA et regardaient tout ça, et à un moment donné, alors qu'elle devait ressortir de l'autre côté, elle a disparu. On ne l'a pas retrouvée, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et en février 2000, donc quelques mois après, un rapport officiel est sorti disant que en fait la sonde était perdue soit elle s'était écrasée, soit elle était partie vers l'infini, tout simplement parce que un sous-traitant avait utilisé des données anglo-saxonnes, des mesures, des unités de mesure anglo-saxonnes en lieu et place du système international. C'est-à-dire que tout le système de la NASA était au système international, donc mètres, kilogrammes, secondes, etc. Et un sous-traitant était resté sur des mesures anglo-saxonnes et une petite pièce en cause dans l'appareil, finalement, a décompté le temps et fait des mesures qui n'étaient pas conformes à ce qu'elles devaient être. Et donc, la fusée qui devait faire la manœuvre de Mars Climate Orbiter derrière n'a pas fonctionné au moment voulu et la sonde n'a pas suivi le chemin qu'elle devait suivre.
L'importance d'une commune mesure, c'est en fait l'objet de cette réforme qui attend la métrologie, la science de la mesure, Thomas Grenon.
Oui, absolument, et c'est même la raison de la Convention du mètre et le fait qu'en 1875, la plupart des grands pays industrialisés se sont dit, avec le développement des échanges, il faut qu'on parle une langue commune, qu'on mesure les choses de la même façon, de façon à pouvoir échanger plus facilement. Et ça a donné naissance donc à la Convention du mètre qui, quelque part, est d'ailleurs la poursuite d'un grand rêve commencé à la Révolution française, un rêve d'universalisme où la Révolution française a voulu, qui a adopté le système métrique décimal, a voulu donner un système de mesure à tous les temps, à tous les peuples, c'est-à-dire un système de mesure qui ne dépend plus ni d'un pays, ni d'une personne, alors qu'avant on raisonnait, on en trouve encore d'ailleurs dans le langage commun, en pied, qui pouvait représenter la taille du pied du roi, donc qui changeait à chaque roi, ou en pouce, ou en unité qui pouvait d'ailleurs varier suivant les villes, et qui rendait les échanges et le fait de se parler de façon extrêmement complexe. Et cette anecdote sur Mars Orbiter le montre bien, et que même encore, quand il y a des traces d'unités un peu baroques, et s'il faut diviser par 3,78, et ben c'est plus compliqué, et si on oublie de le faire, il arrive des catastrophes.
Et alors après la Révolution française, on a défini le mètre en lien avec le quart du méridien terrestre. Et puis on a eu une autre définition en 83 en lien avec le temps.
Absolument. Donc, alors, les unités évoluent, donc, et ce souci d'universalisme se poursuit. Le mètre a été effectivement dématérialisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis est basé maintenant sur la vitesse de la lumière, donc sur les théories quantiques, les théories de la relativité d'Einstein, depuis 1983. Et ce que l'on a fait, c'est assez compréhensible. On va faire la même chose maintenant pour le kilo. Mais à l'époque, on a dit le mètre, donc, était représenté. On en a peut-être encore l'image par l'étalon du mètre, cet étalon physique qui était le mètre étalon. On a changé la définition et on a dit finalement, le mètre, ça va être la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant un certain temps. Le certain temps étant 1 sur c, c étant la vitesse de la lumière dans le vide qui est donnée par donc, la théorie de la relativité. Et donc, on a inversé cette équation, on a dématérialisé le mètre. Et grâce à cette dématérialisation, on y reviendra, on a permis des avancées scientifiques absolument considérables dans la précision de la mesure de la distance et qui rendent par exemple possible d'avoir des GPS à l'heure actuelle qui vous localisent au mètre près, ce qui aurait été totalement impossible avec l'ancienne définition du mètre qui repose sur un artefact physique.
Et cette définition du mètre ne va pas changer, ni celle de la seconde d'ailleurs.
Alors, celle définition du mètre ni celle de la seconde ne change pas cette fois-ci parce qu'elles avaient déjà effectivement fait ce saut quantique, si vous me passez l'expression, il y a un certain temps.
Alors parlons d'une unité de mesure qui va changer dans sa définition, le kilogramme. Mathieu, Thomas, comment est défini le kilogramme aujourd'hui ?
Alors à l'heure actuelle, le kilogramme, qui est donc la dernière unité de mesure du SI qui soit définie par un SI, il y a une définition qui est assez tautologique. La définition exacte, c'est le kilogramme est l'unité de masse. Il est égal à la masse du prototype intentionnel du kilogramme. Donc ce que dit cette définition, c'est qu'il y a un objet qui est conservé sous trois cloches de verre dans un coffre qui soit avec trois clés, qui est utilisé le moins souvent possible. Donc conservé au pavillon de Breteuil, près de Paris, cet objet-là, le prototype intentionnel du kilogramme, pèse par définition 1 kg.
Et à quoi ressemble cet objet ?
C'est un cylindre en platine iridiée. Alors le platine iridiée, c'est un métal conducteur, dur, pratiquement inaltérable, qui fait environ 39 mm de hauteur et 39 mm de diamètre, donc à peu près la dimension d'une balle de golf. C'est un métal très dense. Donc comme il est dense, il a une faible surface et donc a peu tendance à être pollué par la pollution atmosphérique. Donc ce petit objet qui est conservé très précieusement, il est à l'origine de l'ensemble de l'échelle de masse de la planète entière. Chaque pesée que l'on fait, quel que soit son niveau de précision, finalement se raccorde de proche en proche à la valeur du kilogramme de cet objet, à la valeur de la masse de cet objet qui pèse par définition 1 kg.
Donc c'est un étalon très matériel pour l'instant.
C'est vraiment un étalon très matériel, c'est un étalon qui date du 19e siècle, donc 1875, de la Convention du mètre. Vraiment un étalon du 19e siècle, on a tenté de résumer ce que c'est que la masse en un objet. On a fait un objet petit et massif comme on l'imagine intuitivement. Et la nouvelle définition qui va être adoptée selon toute vraisemblance le 16 novembre, vendredi prochain, à la conférence générale des poids et mesures à Versailles, sera une définition qui définira le mètre en le liant à une valeur fixe de la constante de Planck, une constante de la physique quantique. Exactement de la même façon qu'on est passé d'une règle qui finalement reprend vraiment une longueur pour le mètre, à une définition qui donne la valeur d'une vitesse en l'occurrence, qui est la vitesse de la lumière, une constante fondamentale de la physique.
Donc on va passer d'un objet à une constante fondamentale.
Exactement.
Pour le kilogramme. Alors je vous propose d'écouter l'astrophysicien directeur de recherche au CNRS, Jean-Philippe Usan. Lui aussi est très enthousiaste à l'égard de cette redéfinition des unités de mesure.
Il y a énormément d'étapes à passer. Il faut déjà avoir des définitions qui sont dans la continuité des définitions que nous utilisons actuellement, prouver qu'il va y avoir une stabilité et qu'on va augmenter la précision des mesures. Et ça, c'est très important. Juste pour donner un ordre de grandeur, il y a un siècle, sur un mètre, la précision était en gros d'un millième, donc en gros un millimètre. Aujourd'hui, on est à 10-9, donc un millionième. Et quand vous faites des technologies de haute précision, cette précision est nécessaire. Donc le rôle des unités est très important, aussi bien pour la physique de très haut niveau, au niveau expérimental, mais aussi pour tout ce qui est échanges commerciaux, parce que vous voulez savoir que ce que vous appelez le kilogramme, le litre, le mètre cube, et ce que moi j'appelle kilogramme, litre et mètre cube, sont les mêmes. Il ne peut pas y avoir de commerce international sans une confiance dans ces standards, et des standards qui sont définis avec la précision nécessaire pour ces échanges. Alors ça n'intervient pas au jour le jour et dans la vie courante des gens, parce que le kilogramme sera le kilogramme, il se passera la même chose quand on rentrera sur sa balance, mais au niveau de la physique théorique, de la physique expérimentale et de la métrologie, eh bien la notion de mesure, la notion d'unité vont vraiment avoir une sorte de mutation.
Thomas Grenon, nos unités de mesure actuelles sont déjà en fait très précises. L'idée, c'est de les rendre encore plus précises.
Absolument. Vous savez, avec le progrès, avec l'innovation, on a besoin de toujours plus de précision. L'exemple que citait Jean-Philippe Usan est bien évidemment très, très clair. Le progrès des technologies nous demande d'aller toujours plus loin. On parlait du GPS tout à l'heure. Le GPS est précis au mètre. Ça vous permet de faire de la randonnée, de circuler en voiture sans problème. On est en train de faire des travaux pour rendre ces mesures, et en particulier la mesure du temps, encore plus précises, de passer de 10-16 à 10-18, qui sont déjà des précisions incroyables. On se dit à quoi ça sert ? Eh bien, si on fait ça, on arrive à faire ça, on pourra avoir un GPS qui est précis au centimètre. Un GPS précis au centimètre, vous pouvez construire, vous allez changer fondamentalement une activité majeure de l'homme qui est la construction. Donc, plus de précision, c'est à la fois plus de progrès au niveau scientifique et c'est un des impacts qui peuvent être tout à fait majeurs dans notre vie quotidienne.
Alors on en parlait, du 13 au 16 novembre va se tenir à Versailles, donc la semaine prochaine en région parisienne, la conférence générale des poids et mesures pour entériner ces nouvelles définitions, donc de 4 unités de mesure. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui va concrètement se décider, Thomas Grenon ?
Alors, il y a eu énormément de travaux préparatoires. Ce dont on parle, c'est quand même des travaux de recherche qui ont commencé pour le kilo il y a 30 ans, pour les premières bases. Donc, c'est des temps de recherche,
des décennies, avec
besoin de redondance. On a vraiment voulu s'assurer que on partageait tous la même la même vision, les mêmes et ce qu'avait demandé, ce qui avait été voulu par la Convention du mètre et par la CGPM pour la définition de la constante de Planck et donc la redéfinition du kilo, c'est qu'il y ait trois types de mesures qui soient dans des incertitudes très faibles, hein, de l'ordre de 10-8, et avec en plus deux méthodes différentes qui donnent la même valeur de H. Donc vraiment, on a voulu s'assurer, avant de sauter et de franchir ce pas majeur, qu'on était sûr et certain de ce que l'on allait faire sur le plan scientifique. Donc, cette conférence générale des poids et mesures, c'est l'aboutissement d'un long processus scientifique.
Avec des délégations politiques, notamment.
Mais qui va, effectivement, à ce moment-là, définir, puisque la mesure, ça reste très régalien. On parle bien d'une convention du maître, on est donc dans un traité où c'est les États eux-mêmes qui disent « bon, bah, on va mesurer en commun, on va prendre les mêmes unités de mesure ». Et donc l'unité, on voit bien, c'est comme la monnaie, c'est très lié à l'État, on parlait du roi, on parlait, c'est très régalien. Donc les États d'eux-mêmes se disent, bah, on va changer cette définition, on va le faire ensemble parce qu'on souhaite continuer à avoir des échanges, continuer à partager, et donc ça va prendre la forme d'un vote de la Conférence Générale des Poids et Mesures où les États souverains, les délégations d'États vont adopter ces nouvelles définitions.
La science gérée par le politique, en somme. C'est ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors, on va s'éloigner des sciences dures un instant. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Que peuvent nous apprendre les sciences sociales comme la philosophie de cette idée, justement, d'une commune mesure? Je vous propose d'écouter Marie Gaillet. Elle est directrice de recherche CNRS en philosophie et directrice adjointe scientifique à l'Institut des sciences humaines et sociales.
Quand on parle de mesure et d'unité de mesure, spontanément, on va plutôt s'adresser à nos collègues physiciens, mathématiciens. Voilà. Mais les sciences humaines et sociales se préoccupent aussi énormément de mesures, alors sur plusieurs plans. D'abord parce que les activités humaines engagent en fait non seulement énormément d'opérations de mesure, mais aussi l'idée même de commune mesure. Donc évidemment, l'exemple majeur, c'est celui de la monnaie, hein, et de l'utilisation d'une même monnaie pour échanger des produits sur les marchés et de la possibilité de convertir différentes monnaies pour échanger des produits sur un marché. Mais au-delà donc de cet aspect lié à l'économie, la mesure, la commune mesure, c'est aussi la possibilité de partager des expériences sensorielles, alors des expériences extrêmement désagréables comme la douleur, hein, et aujourd'hui dans les hôpitaux on s'efforce de prendre en compte le point de vue du patient, son expérience, et on essaye de lui faire dire voilà à quel point il a mal, combien il a mal, de situer ça sur des échelles de la douleur avec des chiffres, donc de 0 à 10. On s'interroge finalement depuis l'Antiquité pour savoir si l'harmonie musicale est quelque chose que l'on peut calculer et donc reproduire, et si cette beauté que l'on peut rattacher à l'harmonie de la musique est une beauté mathématique finalement, voilà, et donc universelle. Je pense que cette question de commune mesure, effectivement, elle est très importante dans le contexte qui nous occupe, parce que la Révolution française, elle avait cet idéal de partage, d'universalité, et l'époque des Lumières est aussi celle où on a le plus réfléchi au contrat social. Et parmi les penseurs du contrat social, il y a le philosophe écossais David Hume qui a le plus clairement peut-être exprimé que la confiance était la base de la vie sociale. Et c'est quelque chose qui a été après thématisé jusqu'à nous aujourd'hui, notamment à travers des réflexions politiques comme celle de Hannah Arendt. Sans confiance, pas de vie sociale possible. Et la confiance, elle repose aussi sur beaucoup de conventions qui permettent aux uns et aux autres de se retrouver et finalement de pouvoir se reposer sur des conventions communes. Donc il y a celle du temps, l'heure des rendez-vous, il y a celle de la mesure des biens qu'on échange et qu'on achète. De façon plus générale, c'est vraiment l'idée d'avoir un univers commun, un espace-temps commun qui permet, entre autres, de fonder cette confiance sociale.
Quelles questions est-ce que ça amène en sciences sociales, ce changement de mesure ?
Alors, après, d'autres questions sont, je pense, liées à la diversité que l'anthropologie et l'histoire aussi ont constaté depuis, en explorant différentes parties du monde, différents moments de l'histoire humaine. Il y a une grande diversité dans le monde, des manières de mesurer, des manières de compter, des cheminements aussi de l'esprit pour y parvenir, des schémas linguistiques à travers lesquels les choses s'expriment. Donc tout ça, ça pourrait être considéré aussi comme une richesse, hein, qui n'est pas remise en cause par l'idéal d'universalité proposé par les Lumières, mais quand même, qui peut être un peu gommée, un peu mise entre parenthèses par cette recherche d'une commune mesure et qui serait partagée par le monde entier. En Nouvelle-Guinée, aujourd'hui, on utilise encore pour compter monter des formes qui sont fabriquées à partir de ce qu'on appelle les jeux de ficelles et de manipuler avec ses mains des bouts de ficelle. C'est une manière de compter qui est complètement différente de celle à laquelle nous nous sommes habitués et qui évidemment peut-être a des limites par rapport à ce qu'est, aux capacités d'un ordinateur. Mais voilà, qu'est-ce qu'on perd ? Mais c'est un peu la même question qu'on a quand on perd des langues. Hein. Qu'est-ce qu'on perd quand on perd toutes ces manières de mesurer et de compter ?
Que vous inspire ce détour par les sciences sociales, Thomas Grenon ?
Alors, moi, je le trouve tout à fait passionnant. D'ailleurs, ça montre à quel point la mesure est totalement consubstantielle à la vie en société, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne pourrait pas vivre en société sans mesures partagées, et que c'est un des fondements de la vie en société. Et quand on fait un peu de l'histoire de la mesure, on voit que les unités de mesure remontent, ont été inventées avant l'écriture. On avait une façon de mesurer, de vérifier quand on échangeait, les premiers peuples, hein, des unités de mesure, parce que on ne peut avoir confiance dans ce qu'on échange que si on parle la même langue et si on a confiance dans ce qu'on échange. Donc je trouve que ça donne cet éclairage assez fondamental sur une science qui finalement est peu connue, qui est celle de la métrologie, mais qui, et on le voit là à cette occasion, est totalement fondamentale parce que sans cette science, sans métrologie, sans mesure partagée, il n'y aurait pas de vie en société
et pas de langage
possible.
Commun.
Pas de langage commun, pas de possibilité d'échange, et puis un monde de la suspicion qui serait bien évidemment totalement contraire et rendrait toute vie en société impossible.
Mathieu Thomas, le kilogramme, c'est aussi une unité de mesure très importante pour les échanges dont parlait la philosophe Marie Gaillet.
C'est sans doute l'unité de mesure la plus connue et la plus anciennement utilisée. Les échanges commerciaux ont retrouvé des balances à plateau qui datent de l'âge de bronze, pardon, il y a 5000 ans. Bien avant que le concept de masse soit compris, on pesait, on comparait déjà les masses de substances, de biens que l'on voulait vendre ou échanger. Donc c'est vraiment une grandeur fondamentale pour le commerce, et c'est pour cela que c'est la grandeur avec le mètre, la longueur, qui était la première et la plus soigneusement à laquelle on a donné des étalons, des instruments de mesure précis. C'est vraiment la grandeur du commerce avant d'être celle de la science. La science s'est développée sans doute ensuite, en tout cas, elle n'a pas forcément besoin des mêmes. Les exigences régaliennes de précision n'étaient pas forcément aussi importantes pour la science que pour le commerce. Maintenant, les choses ont peut-être changé, c'est sans doute tant mieux.
Alors si je vous dis conte de fées, inceste, robe et gâteau dans lequel on fait tomber une bague, vous me répondez, Thomas Grenon ?
Un zeste de citron.
Voilà, Peau d'âne, conte porté à l'écran entre autres par Jacques Demy en 70 avec Catherine Deneuve dans le rôle principal pour conquérir son prince, lui prouver que c'est bien elle la princesse qui l'a charmée, elle doit faire un gâteau, recette pour un cake d'amour sur RFI.
Autour de la question sur RFI.
Préparez votre pâte dans une jatte plate, et sans plus de discours, allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains.
Question, pourquoi redéfinir nos unités de mesure ? Thomas Grenon, on comprend, la cuisine nécessite aussi des mesures précises, hein, comme nous le rappelle Peau d'âne.
Absolument, la mesure, on la côtoie tous les jours, on la côtoie en permanence, on la côtoie dans la cuisine, on la côtoie quand on prend sa voiture, parce qu'on fait des kilomètres, parce qu'on a des limites de vitesse, on la côtoie parce qu'on a des rendez-vous qu'il faut être à l'heure, parce qu'on prend le train qui doit être à l'heure, on la côtoie absolument en permanence, la mesure nous baigne, et cette redéfinition des unités de mesure, c'est l'occasion justement de s'interroger sur sur ce qu'elle représente, ce qu'il y a derrière. On parlait de sociologie, on aurait pu parler de sondage aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un chiffre que donné par un sondage? Quelle est sa validité? Quelle est sa précision? Quelle est son incertitude? On vit dans un monde où on s'envoie des chiffres à la figure, sans aussi de temps en temps sans se demander ce qu'ils valent réellement, ce qu'ils véhiculent et quelle est leur justesse. Et la métrologie, bah, c'est justement cette science qui amène à se poser ce type de questions, à se dire bah, ce chiffre, que vaut-il et dans quelle, comment dirais-je, dans quelles circonstances, dans quelles est-il valable?
Alors, on a parlé du kilogramme, on côtoie aussi trois autres des unités qui vont changer. L'ampère, l'unité de l'intensité du courant électrique, la mole, l'unité de la quantité de matière, et le kelvin, l'unité de température. Alors, peut-être qu'on peut parler un petit peu du kelvin, Thomas Grenon.
Oui, alors donc on change quatre unités, on a parlé du poids, parlons de la température, qui est aussi une unité quotidienne, hein, quand on a de la fièvre, quand on sort, faut-il s'habiller, faut-il... mais qui est aussi fondamentale dans l'industrie. On va de plus en plus vers le très chaud ou vers le très froid, par exemple pour la microélectronique. Cette mesure a été fixée, enfin est toujours fixée, puisque le changement devrait avoir lieu dans une semaine maintenant, mais comme la référence, c'était ce qu'on appelle le point triple de l'eau, c'est-à-dire un état où, rappellera peut-être des souvenirs à certains de nos auditeurs, où coexiste l'eau à l'état de vapeur, de liquide et de solide, de glace. Et donc, alors c'est à peu près 0 degré Celsius, 0,01 degré Celsius. C'est par contre manque de précision, parce que d'abord, bah, ça pose la question de quelle eau s'agit-il. Une eau totalement sans impureté, on ne sait pas la fabriquer, donc on n'arrivait pas à le matérialiser, on avait beau faire tout ce qu'on pouvait. Et puis, même une fois qu'on aurait de l'eau, de l'H2O totalement pure, il peut y avoir des compositions isotopiques qui soient différentes. Et donc, on avait une unité qui était mal définie au niveau de précision auquel on a besoin. Et avec un deuxième problème, qu'on retrouve d'ailleurs aussi pour la masse, c'est qu'en plus, on fixait un point de l'échelle, puisque c'est le 0 Celsius, donc 273 et quelques Kelvin. Mais si vous alliez vers les basses températures, en fait, plus vous vous éloignez de ce point de référence, plus les incertitudes augmentaient et moins les mesures étaient précises et moins la façon de les comparer était précise. Et ça, c'est vrai pour le froid. Je vous dis, on a besoin de plus en plus, on va vers le très froid, ou pour le chaud, et là aussi on va vers des températures, on va dans la nouvelle technologie, par exemple de fabrication additive, on va vers des températures beaucoup plus élevées. On va, de la même façon que pour le kilo, là, se ramener à une constante fondamentale de la nature, qui est en l'occurrence la constante de Boltzmann, et ce qui va permettre de définir justement la température à tous les points, je dirais, du spectre de...
Avec plus de précision.
Et avec beaucoup plus de précision, absolument.
Mathieu, Thomas, reparlons un petit peu du kilogramme, si vous le voulez bien. Vous avez travaillé donc sur la balance de Kippel pour donc cette nouvelle définition du kilogramme. Vous nous expliquez?
Alors oui, déjà pour... poser les choses. Donc le SI, le système international d'unités, c'est un système d'unités pratiques. On doit définir des unités qui sont, disons, à taille humaine, un kilogramme, un mètre pour le commerce et l'industrie. Et on doit avoir des expériences qui permettent de réaliser ces unités au plus haut niveau métrologique possible. Donc la constante fondamentale qu'on peut choisir pour définir telle ou telle unité doit non seulement être possible théoriquement de lier une grandeur et une constante fondamentale, mais aussi on doit avoir une expérience qui permette de faire le lien entre cette grandeur et cette constante fondamentale. Pour la masse, pour le kilogramme, pour l'unité de masse qui est le kilogramme, c'est la balance de Kibble ou balance du Watt, dans son ancien nom, qui permet de lier une constante de la physique quantique. Alors ce qui est intéressant, c'est une constante de l'infiniment petit, c'est une constante qui régit les échanges d'énergie à l'échelle atomique ou des photons, à une masse macroscopique, encore une fois, à, par exemple 1 kg. Donc finalement, cette expérience qui existe, c'est-à-dire qu'on est capable de faire fonctionner expérimentalement à des très bons niveaux d'incertitude, elle lie H, la constante de l'infiniment petit, aux masses, au kilogramme. Donc on a vraiment de quoi lier des choses, une grandeur microscopique à la masse macroscopique dont on se servira au quotidien.
Par un objet matériel?
Alors non, on aura finalement on aura pour la première fois quelque chose qu'on pourra appeler une balance, dans le sens qu'on pourra mettre un objet dont on ne connaîtra pas la masse, et cette balance de Kibble permettra d'obtenir la valeur en kilogramme de cet objet.
Être plus proche de la vérité, c'est l'idée de cette redéfinition des unités de mesure que nous anticipons aujourd'hui dans Autour de la question. Be honest, c'est signé Kiddy Smile et c'est sur RFI.
Dans ma days trying hard to get your attention, but it ain't working, yeah. I've been spending all my nights and time crying. Won't you get that right? Satisfaction guaranteed. You just keep on digging, yeah. Satisfaction
de la question « Pourquoi redéfinir nos unités de mesure aujourd'hui ?» Piste de réponse avec nos invités, Thomas Grenon, directeur général du Laboratoire National de Métrologie et d'Essais, et Mathieu Thomas, chercheur au sein de ce laboratoire, responsable de la balance de Keeble, un instrument qui permet de calculer le nouveau kilogramme. Et si nous regagnons l'exposition sur mesure, les 7 unités du monde, qui se tient en ce moment au Musée des Arts et Métiers à Paris, rendez-vous dans une salle qui s'attache à définir les 7 unités. Pour chaque unité, on voit un objet censé la représenter et puis un chercheur en vidéo à l'écran qui définit pendant près d'une minute l'unité de mesure qu'il utilise au quotidien. On retrouve le commissaire de l'exposition, Bruno Jacomi.
Mais dans cette salle, en fait, on a voulu présenter les 7 unités de base du système international, mais aussi les unités dérivées. Expliquer un petit peu à tout le public qu'il y a ces 7 unités qui sont effectivement la référence absolue, mais qu'autour, il y en a plein qu'on utilise et qui sont les unités courantes. Alors en plus, dans ces unités de base, bon, kilogrammes, mètres, secondes, ça tout le monde connaît. Candela, ça devient un petit peu plus difficile. La molle, ça ne dit pas grand-chose. Et je vous avoue que le fait de devoir présenter dans une exposition, c'est-à-dire sous forme matérielle, des étalons qu'on fait tout pour les rendre immatériels, c'est une vraie gageure. Et donc, on a essayé de trouver des objets qui soient tous des objets réels, mais des objets qui soit ont été utilisés, soit toujours utilisés aujourd'hui. Par exemple, pour la candela, la lampe et le photomètre sont bien des objets réels qui servent aujourd'hui à la définition de l'unité d'éclairement. La molle était pour moi l'une des unités les plus difficiles à représenter parce que, je dirais, le citoyen moyen, où est-ce qu'il peut trouver les molles ? Ben, finalement, quasiment que lorsqu'il va au laboratoire pour faire des analyses de sang et on va lui donner des quantités de corps en nanomoles par millimètre cube ou je ne sais pas. Et donc, là, on va trouver des molles, mais c'est à peu près le seul endroit où il va en voir. Et même quand on dit aux gens, 4 des 7 unités de base vont changer, mais alors qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour moi ? Ça n'aura pas des conséquences directes. Voilà, chez son commerçant, on prendra toujours un kilo de tomates, voilà, ou un ruban d'un mètre.
Alors cette redéfinition ne va rien changer ou presque à notre quotidien, Thomas Grenon.
Alors c'est là où les métrologues ont eu plus le sens du grand public et de nous que les financiers, si je peux m'exprimer ainsi, où quand on a passé du franc à l'euro, il fallait tout diviser par, on a oublié, mais c'était 6,50 quelque chose. Heureusement on a oublié, on s'y est fait. Là, on aurait pu dire, H, par exemple, la constante de Planck vaut 1. De toute façon, c'est une vision. Mais à ce moment-là, votre kilo de carotte, vous auriez tout perdu. Vous n'auriez plus... Et donc, ce qu'ont fait les scientifiques, ce qu'ont fait les métrologues, ce que nous avons fait, c'est de tout faire pour que ça ne bouleverse pas le quotidien. Parce
ça
que la mesure, elle est tellement ancrée dans notre quotidien. On a tellement de références, de temps, de quantité, où on parle de kilogrammes, de poids, qu'on a tout fait pour que... ça soit justement inaperçu. Alors c'est un peu compliqué de parler avec vous justement d'une révolution qui a 30 ans de travaux et qui, à l'instant T, devrait se traduire par rien. Mais c'est justement parce qu'il y a eu 30 ans de travaux que vous et moi allons pouvoir continuer à faire nos courses sans que ça bouleverse. Par contre, dans la durée, ça va changer fondamentalement la science et les technologies. Et je disais tout à l'heure que sans le changement de définition du mètre, il n'y aurait pas eu de GPS. Donc à l'instant T, sans doute, il ne va rien se passer. Tout a été fait pour. C'est comme ça qu'on a défini H, de façon à ce que rien ne change, que le kilo reste le kilo, mais dans la durée...
Cette précision pourra donner lieu
va donner lieu à des innovations, à des découvertes scientifiques et à du progrès. Un progrès qui était bridé par une façon de mesurer qui n'était plus efficiente, qui n'était plus efficace.
Alors, on n'a pas encore parlé de l'ampère, unité de mesure de l'intensité du courant électrique, dont la définition va aussi changer. Mathieu Thomas.
Alors, l'ampère, c'est un exemple qu'on peut situer conceptuellement entre le kilogramme défini à l'heure actuelle sur un artefact et le mètre déjà défini sur une constante fondamentale. L'ampère, il est défini par ce qu'on pourrait appeler une expérience de pensée. C'est l'ampère, c'est le courant électrique qui circule entre deux fils infiniment longs, infiniment minces, séparés dans le vide par un mètre, génère une force de 4·10⁻⁷ newtons. Alors sans entrer dans l'état, c'est-à-dire qu'on veut des fils infiniment longs, infiniment minces, toutes choses qui sont évidemment impraticables à réaliser en pratique justement, et qui a depuis, c'est une définition qui est de 48, qui a toujours finalement limité ce qu'on appelle la réalisation de l'ampère. Donc en pratique, dans le système international d'unité, d'autres unités électriques étaient réalisées à des meilleurs niveaux de précision. Donc cette définition même de l'ampère, une expérience de pensée irréalisable, empêchait de réaliser un ampère de manière aussi bonne qu'on était capable de le faire pour d'autres unités par d'autres moyens. Pour l'ampère, donc on va passer à une nouvelle définition qui définira la valeur de la charge de l'électron. Ce sera finalement, l'ampère sera un flux d'électrons de façon plus intuitive que pour d'autres unités comme pour la masse. Un flux d'électrons, un débit de courant donnera l'ampère.
Et ça, ce sera la nouvelle donc, définition de l'ampère. Autour de la question, plongée dans l'univers de la mesure aujourd'hui, cette quête en fait, de concordance entre scientifiques du monde entier. Sur RFI, signé MILF, qui imite en fait une répétition d'un orchestre, l'harmonie musicale comme métaphore hein, pour que la science continue d'avancer. On le disait Thomas Grenon, il faut s'accorder sur des mesures communes, précises et universelles. Et ce qui est intéressant, notamment dans l'exposition sur mesure au Musée des Arts et Métiers, on y revient, c'est qu'on voit de nombreux objets pour mesurer, des balances anciennes, une balance monétaire qui trie les pièces d'après leur poids, ou même une impressionnante machine à prédire la marée des océans qui date de la fin du 19e siècle. Et en fait, on voit aussi qu'avec ces objets, l'homme a toujours voulu mesurer ce qui l'entourait.
Oui, absolument. On en parlait tout à l'heure. Pour vivre en société, pour échanger, il faut effectivement être capable de mesurer ce que l'on fait. Et puis, la vie en société se complexifiant, on a aussi voulu commencer à mesurer l'opinion. Et il y a dans cette exposition une formidable machine qui dit c'est la première machine à mesurer l'opinion. On a voulu, au milieu du 19e, je crois, mesurer l'opinion. C'est les tout premiers sondages. Et on distribuait des jetons aux gens à la sortie du théâtre. C'est un peu notre like ou hein, j'aime pas. Ils avaient un jeton rouge ou un jeton noir et ils mettaient dans la machine le jeton de couleur suivant qu'ils avaient aimé ou pas aimé. Et la machine d'elle-même faisait le tri et disait, finalement, les gens aiment ou n'aiment pas. Et donc, on voit, d'ailleurs, voilà, milieu du 19e, on s'est dit, mais comment est-ce que je peux mesurer l'opinion? Comment est-ce que je peux essayer de savoir si les gens aiment ou n'aiment pas cette pièce de théâtre?
Autour de la question, pourquoi redéfinir nos unités de mesure? On continue cette plongée au cœur de la métrologie, donc la science de la mesure. Mais d'abord, petite étape au paradis avec Aurel San.
Qu'est-ce que j'ai rêvé? faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Ils disent que pour tenir un couple, faut l'entretenir tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien en amour. Comme si je devais faire un effort pour t'écouter. Comme si j'avais déjà douté. J'aimerais tes défauts si jamais j'arrive à en trouver. Rien n'a bougé depuis nos premiers je t'aime. Ça fait 7 ans qu'on sort ensemble depuis 2 semaines. Ta peine est ma peine, ma vie est la tienne. Ta famille et la mienne sont la même. J'ai abandonné ces chiennes sur le bord de la route. C'est moi qui devrais avoir des doutes parce que tu les baisses toutes. Je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Pour moi c'est ça de prix, ça fait toujours plus de toi. Tu serais là si je repartais à zéro, à me rappeler les vraies choses, à calmer mes névroses. J'avais un petit diable sur mon épaule, maintenant j'ai ta tête sur mon épaule.
Qu'est-ce que j'irai faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Qui le donne à d'autres le paradis? Je n'en voudrais pas.
Autour de la question pourquoi redéfinir nos unités de mesure, Thomas Grenon, Mathieu Thomas, une question vous est adressée. Elle est posée par le journaliste scientifique Philippe Pajot du magazine La Recherche.
Donc dans les nouvelles définitions des unités de mesure qui vont être entérinées à la prochaine conférence internationale des poids et mesures au mois de novembre et qui seront en vigueur au mois de février prochain, il y a 4 unités qui vont être redéfinies, dont le kilogramme qui était donc le dernier... dernière unité définie à partir d'un artefact, d'un objet physique. Est-ce que c'est la dernière redéfinition des unités de mesure, parce qu'il y a quand même déjà beaucoup, ou est-ce qu'il y en aura d'autres?
Alors, quelle réponse apporter à cette question, Mathieu Thomas?
Ce qu'il y a de remarquable sur cette redéfinition, c'est que déjà, effectivement, on redéfinit réellement 4 unités de mesure. Donc on passe d'artefacts à des constantes fondamentales ou des expériences de la physique à des constantes fondamentales.
Ce qui est inédit, hein, on disait ce qui est dans l'histoire.
C'est 4 véritablement redéfinis et les 3 autres, donc pour arriver aux 7 unités, qui sont redéfinies en tout cas dans leur formulation, de manière à ce que les 7 unités de base du SI soient toutes définies sur des constantes fondamentales. Du système international, pardon. Soient toutes redéfinies sur des constantes fondamentales, avec la même formulation, sans aucune référence, ni à des expériences, ni à des conditions. Donc on a vraiment l'idée de former un tout cohérent et de ne plus construire un ensemble de définitions qui ont été finalement, sédimentées par l'histoire. Donc déjà, on redéfinit toutes les unités sur des constantes fondamentales au meilleur de nos connaissances actuelles de la physique. De ce qu'on sait, les constantes fondamentales qu'on a choisies et les constantes fondamentales de la physique sont ce qu'il y a de plus stable dans le temps et de plus uniforme dans l'univers. Elles, à ce qu'on sait, ne bougent pas, ne changent pas de valeur.
C'est ce qu'on sait pour l'instant.
C'est ce qu'on sait pour l'instant, c'est le meilleur de nos connaissances de la physique. Le SI, c'est un système pratique, donc on doit avoir des constantes qui sont stables dans le temps, c'est ce qu'on a obtenu, et des constantes avec lesquelles on est capable de faire des mesures et de réaliser des étalons. On doit pouvoir le faire non seulement une fois, disons pour la performance, mais après, pas au quotidien, mais en tout cas dans les laboratoires de mesure. Par exemple, pour la seconde, on a conservé, même si on a réécrit la redéfinition, mais on a conservé la définition de la seconde sur la fréquence de la structure hyperfine du césium. La définition ne change pas. Même si on est capable, à l'heure actuelle, avec des transitions optiques et non plus microns, de réaliser a priori des étalons de la seconde qui seraient plus reproductibles et donc meilleurs que ce qu'on est capable de faire actuellement. Donc on peut envisager à moyen terme, quelques années, une redéfinition de la seconde sur des transitions optiques et non plus micro-ondes pour cette unité de temps.
Thomas
Il faut
Grenon,
savoir le faire au quotidien, tout le temps.
C'est un mouvement très progressif.
Oui, absolument. D'abord parce qu'on le disait, on vit avec la mesure et qu'on ne change pas toutes nos références comme ça. Et, par exemple, si on revient à la Révolution française, dans le système décimal, on était passé, par exemple, la mesure du temps à 10 heures. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. On est revenu finalement à 12 heures et donc on se rend compte à quel point c'est ancré dans
notre... Ce sont des repères, pardon.
Que c'est des repères absolument fondamentaux et qu'on changeait n'est pas du tout simple. Par contre, la quête de précision, elle est essentielle au progrès scientifique. On citait tout à l'heure l'exemple du GPS. Si on arrive, grâce aux horloges optiques, de passer à une précision du temps de 10^16 à 10^-18, on aura peut-être un GPS précis au centimètre, ce qui changera fondamentalement ses usages.
Alors, la conférence générale des poids et mesures se tient donc la semaine prochaine. Et quand est-ce que cette réforme de redéfinition des mesures dont on parle aujourd'hui va vraiment être appliquée?
Donc la redéfinition devrait être actée, votée vendredi prochain, le 16 novembre, mais elle ne s'appliquerait que le 20 mai 2019, donc dans un peu plus d'un an. C'est la journée internationale de la métrologie, c'est la date anniversaire de la signature de la Convention du Maître dont Thomas Grenon a parlé. Alors la date du 20 mai donc, est symbolique, mais du 20 mai 2019, c'est pour laisser le temps à la fois aux usagers de prendre connaissance de cette redéfinition, aux laboratoires d'étalonnage de mettre en pratique les nouveaux usages et aux scientifiques de régler, disons, les détails nécessaires pour la dissémination, pour la réalisation des unités, des laboratoires de haut niveau jusqu'aux utilisateurs.
Donc pour le 20 mai prochain, on parle de mesures aujourd'hui et il y a aussi ces mesures que nous donnons de nous sans nous en rendre compte.
C'est donc un bracelet connecté qui va analyser vos données de la journée énergétique, vos dépenses énergétiques de la journée, mais également la nuit, votre sommeil. Et du coup, depuis un mois, je ne l'ai pas quitté. Je me lave les mains avec, je me baigne avec, je me douche avec, je dors avec, je fais tout avec. Vraiment tout.
Extrait de la chaîne YouTube The Eye Collection. Alors on le voit, on l'entend aussi, on donne des données de nous par notamment des montres connectées, des smartphones, sans en être forcément conscient. Thomas Grenon.
Ah bah absolument, on vit dans un monde, alors ça c'est un autre sujet qui est celui de la sécurité numérique, mais qui est que deviennent ces données, quel usage en est-il fait pour que ce soit d'ailleurs à des fins commerciales ou à des fins politiques. Toutes ces mesures et les capteurs, la multiplication des capteurs, qui est dans le domaine de la métrologie un phénomène tout à fait fascinant et nouveau, et les portables dont on parlait, les smartphones en sont, comment toutes ces données, comment les exploiter à de bonnes fins, comment éviter qu'elles soient exploitées à de mauvaises fins, ça fait partie des défis futurs de la métrologie. On n'a pas parlé, on aurait pu parler par exemple de qualité de l'air, point important de la métrologie, mesurer la qualité de l'air. Si vous avez tous ces portables ou toutes des tas de petites applications maintenant permettent de mesurer la qualité de l'air de façon moins précise, mais la multiplication de ces données peut-elle permettre finalement d'obtenir une vision globale meilleure qu'un petit nombre beaucoup plus précis, font partie des défis futurs de la métrologie.
Et plus ces mesures seront précises, mieux notre communauté scientifique pourra avancer ensemble aussi.
Absolument, et mieux nous pourrons répondre aux grands défis de demain que sont la santé. Quand vous allez dans un laboratoire d'analyse médicale, on vous fait des mesures, plus vous êtes capable de mesurer précisément ce qu'on appelle des biomarqueurs, plus vous pouvez traiter de façon précoce des maladies. On travaille par exemple sur ce qu'on appelle la protéine de Tau, qui est un biomarqueur de la maladie d'Alzheimer. Plus on arrivera à la mesurer précisément, plus on pourra détecter la maladie Tau et plus on pourra délivrer des soins adaptés. Donc dans le domaine de la santé, la métrologie est fondamentale. Dans le domaine de l'environnement, la métrologie est fondamentale. On parlait de qualité de l'air, on aurait pu parler de qualité de l'eau, mais on peut parler aussi du changement climatique. Il faut des mesures toujours plus précises pour essayer de prévoir l'évolution du climat.
Donc les mesures indispensables à nos sociétés dans de nombreux domaines. Merci à tous les deux, Thomas Grenon et Mathieu Thomas, d'être venus dans notre studio nous faire découvrir ce monde de la mesure et des mesures. Un grand merci également à l'équipe de l'émission, Hugo Violas à la réalisation et Sophia Bédard en coulisses. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de RFI. Demain, autour de la question comment la science infuse et se diffuse, c'est notre rendez-vous mensuel avec la presse scientifique pour un petit tour de l'actualité des sciences.